Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. D'ici 20 minutes, avec mon invité, le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, nous reviendrons sur ce nouveau coup de tonnerre dans le monde du foot. Les Girondins, lâchés par leur financier américain King Street, comment en est-on arrivé là? Et surtout, quel avenir pour le club? La ville serait en contact avec deux candidats potentiels. À partir de 18h30, avec les grandes voix d'Europe 1, nous reviendrons sur ce drame qui est intervenu cet après-midi à Rambouillet. Cette policière de 49 ans tuée lors d'une attaque au couteau par un Tunisien qui a été abattu. Nous ne céderons rien au terrorisme islamiste, dit à l'instant Emmanuel Macron. Et puis on reviendra aussi sur ces élus de plus en plus nombreux qui réclament une territorialisation des mesures de déconfinement. Dans votre débat du Club des Idées à partir de 19h20, on va s'intéresser à un art qui, quand on le maîtrise, rend la vie tellement plus facile. Savoir bien parler pour faire passer des messages qui vous tiennent à cœur, être à l'aise en public ou simplement devant son patron, ses clients ou ses amis. Cet art qui demande beaucoup de travail mais qui confère aussi beaucoup de pouvoir, c'est l'éloquence. Et c'est à la portée de tous, vous diront mes invités, qui vous donneront des conseils précieux qui pourraient changer votre vie. Mais avant cela, l'info avec le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Merci à vous d'écouter Europe 1, il est 18h.
Notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte.
Les mots du Premier ministre Jean Castex, le commissariat de Rambouillet en état de choc ce soir, une policière tuée à coups de couteau, son agresseur présumé, un Tunisien de 36 ans, a été abattu.
Le parquet national antiterroriste est saisi de l'affaire. L'assaillant aurait crié à la Wakbar au moment de frapper. Le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre se sont rendus sur place.
Il est parti et à l'heure qu'il est, il est déjà à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Thomas Pesquet et trois autres astronautes sont en route pour la Station Spatiale Internationale.
Et on revivra ensemble le film de ce lancement réussi depuis la base américaine de Cap Canaveral, un départ réglé au millimètre, hein, tout comme les combinaisons d'ailleurs. Un brin rétro, mais plutôt chic. Qu'est-ce qui se cache d'ailleurs derrière ce coup stylistique?
Empêcher la propagation du variant indien du coronavirus, le gouvernement va imposer dès demain une quarantaine stricte aux voyageurs en provenance d'Inde. Le protocole est testé depuis ce matin à l'aéroport de Roissy. Reportage dans le journal.
La ville de Bordeaux affirme être entrée en contact avec deux repreneurs potentiels pour les Girondins. Le club de foot est menacé, je vous le disais, de dépôt de bilan après le retrait de son propriétaire américain. Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, sera donc l'invité du 18-20 juste après ce journal.
Et puis la bourse de Paris termine en baisse de 0,15% à 6257 points.
La météo, bonsoir Anissa Adadi.
Bonsoir Isabelle.
Et le beau temps se poursuit, bonne nouvelle.
Oui, avec du soleil sur une grande partie du pays demain, un petit peu de fraîcheur matinale, mais tout cela va être vite oublié puisque dans l'après-midi, les températures continuent de grimper. Nous aurons 27 degrés dans le sud-ouest demain après-midi. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une fonctionnaire de police a donc été tuée cet après-midi au commissariat de Rambouillet. Elle a été agressée à coups de couteau. Son assaillant est un Tunisien de 36 ans, inconnu des services de police. Il a été aussitôt abattu après son geste.
Et on va tout de suite rejoindre Johanna Chabas en direct de Rambouillet. Johanna, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Alors est-ce que l'on en sait un peu plus sur ce qu'il s'est passé ?
Oui, en début d'après-midi, cette fonctionnaire administrative de police de 49 ans est sortie changer son disque de stationnement. C'est en revenant au commissariat dans le sas de l'entrée que l'assaillant l'a attaquée au couteau et l'a touchée à la gorge. Elle est décédée très rapidement. Les policiers à l'intérieur ont vite riposté avec leur arme de service et ont blessé l'attaquant. Il est mort de ses blessures. La fonctionnaire de police avait deux enfants dans la ville de Rambouillet. Beaucoup sont émus après cette attaque, notamment Michel. Sa femme travaille dans le commissariat et était la meilleure amie de la victime. Il décrit une femme remarquable.
C'est une femme adorable, d'une gentillesse incroyable. Il y a des enfants qui ont une gentillesse insondable, selon ma compagne. Je connais plein de personnes dans ce commissariat. Des gens, pour la plupart, adorables. J'arrive pas à parler tellement ça me fout les boules.
L'assaillant tunisien avait un titre de séjour et était inconnu des services de police et des renseignements. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête, notamment parce que l'assaillant avait fait des repérages et aurait dit à la Wakbar au moment des faits. Une cellule psychologique a été mise en place au commissariat.
Johanna Chabas en direct de Rambouillet. Dès l'annonce de ce drame, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ainsi que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, se sont rendus sur place. On écoute la réaction de Jean Castex.
Une nouvelle fois, le département des Yvelines est mis à rude épreuve des attaques terroristes, puisque nous avons tous en mémoire l'odieux attentat de Magnanville en 2016 et plus récemment l'assassinat de Samuel Paty. Je voudrais dire à l'ensemble des Françaises et des Français combien notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte.
Le Premier ministre Jean Castex qui réagissait donc après l'agression mortelle de cette policière à Rambouillet. On aura l'occasion d'y revenir évidemment dans nos prochains rendez-vous d'information. Dans l'enquête sur l'enlèvement de la jeune Mia, sa mère a été extradée vers la France ce matin. Elle doit être entendue.
Oui, et un ressortissant français soupçonné de l'avoir aidé à kidnapper sa fille a également été extradé. On rappelle que 5 hommes sont déjà poursuivis dans cette affaire pour enlèvement en bande organisée. 4 dorment en prison.
Europe 1 18h04, on n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'espace. C'était le slogan d'une pub dans les années 90. Et c'est peut-être le sentiment de Thomas Pesquet ce soir.
Le Français accompagné de 3 autres astronautes a décollé comme prévu ce matin depuis le centre de la NASA à Cap Canaveral en Floride. Une mission de 6 mois les attend. On va en parler avec vous, Laure d'Autriche. Mais tout d'abord, on va quand même envie de revenir et de revivre surtout le film de ces dernières heures et notamment ce moment toujours très angoissant et excitant. Et bien, c'est celui du décollage.
Et oui, 3 heures avant le décollage, les astronautes sont montés via des ascenseurs dans le vaisseau situé tout en haut de la fusée à 70 mètres de hauteur, les écoutilles se ferment, il fait encore nuit aux États-Unis, la fusée est éclairée par des lumières blanches. Thomas Pesquet est situé à droite de ses coéquipiers près du hublot et à 11h49, décollage.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Le premier étage de la fusée se détache en vol, puis le deuxième étage. Il ne reste plus dans l'espace que le vaisseau avec les astronautes à l'intérieur. 10 minutes après le départ, la fusée atteint la vitesse de 27 000 km/h. C'est spectaculaire. Puis après une 12 minutes, les voilà en apesanteur. Les astronautes ne sont plus soumis à l'attraction terrestre. La caméra embarquée montre Thomas Pesquet et ses coéquipiers avec les jambes et les bras qui flottent. Ils voient déjà le bleu de la Terre et le noir du cosmos. Ils peuvent alors se détendre un peu et les étapes finalement les plus critiques sont passées.
Et c'était effectivement assez magique de vivre ça en direct. Alors techniquement, alors combien de temps va durer ce vol jusqu'à la Station Spatiale Internationale et comment ça va se passer l'arrimage?
Alors même si l'ISS ne se situe qu'à 400 km de la Terre, le vol va durer un peu plus de 23 heures. Les moteurs sont éteints, la capsule va dériver progressivement pour se mettre sur la trajectoire de la Station Spatiale. Tout est automatisé, l'équipage finalement intervient peu en vol, mais en cas de problème, il peut reprendre la main. L'arrimage se fera à la seconde près. Il y a un système qui fait que la capsule s'accroche à la station spatiale. Ce sera demain en fin de matinée.
Thomas Pesquet et ses 3 compagnons ont un plan de travail précis. En quoi consistent ces 6 mois de mission?
Ils ont des expériences scientifiques et technologiques à faire. Thomas Pesquet en a une centaine. Et il y a en particulier une expérience qui lui tient à cœur. Il emporte avec lui une dizaine de mini-cerveaux, un assemblage de cellules pour essayer de mieux comprendre les effets sur le cerveau de la vie dans l'espace et étudier les mécanismes de vieillissement du cerveau.
Laure d'Autriche, spécialiste des questions spatiales à Europe 1.
Et un certain nombre d'entre vous l'ont peut-être remarqué si vous avez suivi ce décollage. L'arrivée sur le pas de tir des 4 astronautes était réglée comme une partition.
Ouais, n'oublions pas que la capsule dans laquelle ils ont embarqué a été conçue par une entreprise propriété d'Elon Musk. Le milliardaire ne laisse jamais rien au hasard en termes de marketing. Témoin, les combinaisons que portent Thomas Pesquet et ses compagnons futuristes et près du corps. On était très loin du bibendum que l'on a connu par le passé. Et ce n'est pas un hasard, Zoé Pallier.
Non, parce que ces combinaisons, elles ont été conçues par un créateur star d'Hollywood, José Fernandez. Il a imaginé les costumes de Batman, de Captain America ou encore des Black Panther. Contacté par l'équipe d'Elon Musk alors qu'il n'avait jamais entendu parler de SpaceX, il a même cru que c'était le titre d'un nouveau film. Résultat, les combinaisons ont l'air tirées tout droit de Star Wars. Toutes blanches, quelques touches grises seulement aux extrémités. Un style épuré qui rappelle finalement celui du vaisseau. Des combinaisons en une seule pièce, ça aussi c'est inédit. D'habitude, les gants et les casques sont détachés. Plus pratique, plus fonctionnel, donc avec des gants tactiles pour permettre aux astronautes d'utiliser les tablettes de bord. Et lors du premier essayage, Thomas Pesquet était apparu tout sourire sur Twitter pour déclarer « Ce scaphandre sur mesure est confortable comme un pyjama ».
Et ben voilà, Zoé Pallier, merci pour ces explications. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu Starship Trooper ou soldat d'Empire dans Star Wars.
C'est vrai.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1, la mise en quarantaine obligatoire, répétition générale à l'aéroport de Roissy.
Et puis Bordeaux lâché par son actionnaire, un ancien Bordelais du nom de Zinedine Zidane témoigne son soutien au club.
Europe 1, 18h10, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre. Et le gouvernement, Christophe, qui veut absolument éviter la propagation des variants du virus sur le sol français.
Oui, la France redoute particulièrement la menace du variant indien. Les autorités ont donc classé l'Inde parmi les pays à risque, comme le Brésil ou le Chili. Et à partir de demain, ce sera contrôle renforcé à l'arrivée à Roissy pour les voyageurs en provenance d'Inde. Protocole qui a d'ailleurs été testé ce matin. Et tout ne s'est pas toujours passé comme prévu, Laura Taouchanoff.
Oui, un peu laborieux parce qu'après un long vol, les voyageurs doivent parfois attendre plus d'une heure pour passer toutes les étapes de ce nouveau dispositif de contrôle. Il faut d'abord renseigner ses coordonnées, son adresse, surtout pour l'isolement qui passe de 7 à 10 jours à partir de demain. C'est un dispositif encore en rodage aujourd'hui. Il faut ensuite refaire un test antigénique. Beaucoup de stress en plus pour Sophie qui a une correspondance juste après.
C'est vrai que là en France, ça fait déjà 40 minutes qu'on attend et on n'a toujours pas fait le test. On a fait un test PCR et un antigène à Bangalore et un antigène ici à Paris. L'efficacité en Inde est hallucinante. C'était très rapide. En 40 minutes, tout était fait. De faire toutes ces histoires, je trouve ça très stupide.
Après ce test antigénique, les voyageurs doivent refaire un test PCR dans les 10 prochains jours. Alors pour Jérôme, qui rentre d'un voyage d'affaires en Inde, c'est beaucoup de contraintes pour peu d'efficacité.
Franchement, tout ça, c'est du théâtre. On veut montrer à la France qu'elle est bien protégée. Mais en réalité, le virus est déjà là. Je ne sais pas où. Personne ne sait où il est. Mais il est déjà rentré. Regardez l'histoire du variant britannique. On avait même fermé les frontières. Et aujourd'hui, il est majoritaire en France.
Une bonne nouvelle quand même, selon la protection civile, tous les tests antigéniques de ces voyageurs en provenance d'Inde sont revenus négatifs.
Un reportage à l'aéroport de Roissy, signé Laura Taouchanoff. L'épidémie recule très lentement, près de 32 000 cas positifs chaque jour encore. La pression reste forte sur les hôpitaux, toujours près de 6 000 malades dans les services de réanimation, mais le gouvernement maintient son cap.
Les écoliers rentreront en classe dès lundi, les collégiens et les lycéens feront cours à distance. Pour eux, la rentrée est véritable, c'est-à-dire en étant physiquement présent, ce sera une semaine plus tard, c'est-à-dire le 3 mai.
Le protocole est clair, autotest pour tous les enseignants deux fois par semaine, une fois par semaine pour les élèves de plus de 15 ans et un seul cas de Covid et c'est toute la classe qui ferme.
Et pour les commerces actuellement fermés, le gouvernement ne donne pas de date précise, ce sera autour de la mi-mai, cela pourrait varier d'une région à l'autre. C'est aussi cette échéance que fixe la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour une réouverture des lieux culturels sans préciser lesquels.
À Bordeaux, l'inquiétude grandit autour de l'avenir des Girondins. Les anciennes stars disent leur tristesse face au péril qui guette le club.
L'actionnaire principal a jeté l'éponge, lassé de devoir renflouer des comptes frappés de déficit chronique. Bordeaux est au bord du précipice qui pourrait l'amener à déposer le bilan. Une situation qui désole Zinedine Zidane. L'entraîneur de Madrid n'oublie pas qu'il s'est révélé en tant que joueur sous le maillot bordelais.
Non, ça ne me laisse pas du tout indifférent, et bien au contraire. Et c'est vrai que la situation n'est pas agréable. J'espère que justement il n'y aura pas une rétrogradation au niveau administratif, parce que sur le terrain, j'espère que les Girondins justement vont faire ce qu'il faut pour rester en première division, et je pense que c'est ce qui va se passer. Mais par contre, c'est vrai que la situation, elle est compliquée, parce que tout ce qui est en train de se passer n'était pas prévu. Donc moi, comme ancien Girondin, ce club m'a apporté tellement de choses, que oui, je suis, et j'ai parlé avec des gens à Bordeaux, et j'espère que la situation va bientôt s'arranger à tous les niveaux, en tous les cas, et total soutien à ce globe de cœur, et je serai toujours derrière de toute façon les Girondins de Bordeaux, ça c'est clair et net.
Zinedine Zidane, ancien joueur de Bordeaux et aujourd'hui entraîneur du Real Madrid, propos recueillis par Henri Delaguerie.
Et le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, est mon invité dans un tout petit instant, c'était le journal de Christophe Lamarre. La météo, Anissa Haddadi, on vous retrouve et vous nous confirmez donc que le sommeil pour moi aussi, bientôt. Domine encore demain.
Oui, dès le début de la journée, Isabelle, le temps est déjà très ensoleillé sur les côtes de la Manche et dans le sud, le vent reste sensible. Sur les côtes de la Manche, du Cotentin jusqu'à la pointe bretonne, on a toujours ce vent de nord-est qui souffle sur le littoral et puis dans le sud, c'est le vent d'autan. Au fil des heures, nous avons un voile nuageux qui va quand même recouvrir quasiment toutes les régions. C'est un léger voile nuageux qui de temps en temps viendra masquer le soleil, mais rien de très inquiétant. Côté température, elles sont stationnaires le matin avec 0 degré à Épinal, 3 à Strasbourg, 6 pour Paris, 12 degrés à Nice, Brest et La Rochelle et 14 à Biarritz. Et alors au meilleur de la journée, ça va grimper. On a des températures dignes d'un été, en tout cas pour le sud, parce qu'au nord on a 15 degrés à Cherbourg, 16 à Lille, 19 à Metz, 21 pour Marseille et Paris, 23 à Besançon, 24 degrés à Quimper, Nîmes et Clermont-Ferrand, 26 degrés pour Biarritz et 27 la maximale pour Bordeaux ou encore Angoulême.
Ah oui, c'est l'été dans le sud, carrément.
Oui, chaud, ouais.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour nouveau point météo.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, quel avenir pour les Girondins ? Je reçois le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, à tout de suite. 18h18, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Et vous savez qu'un nouveau séisme secoue le monde du foot après la crise sanitaire, celle des droits télé, le feuilleton Super League. Voilà que les Girondins de Bordeaux, club historique du championnat de France, est placé sous la protection du tribunal de commerce. Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, est en direct avec nous ce soir. Bonsoir, merci à vous.
Bonsoir.
Alors l'actionnaire américain King Street, qui avait racheté le club il y a deux ans, a donc décidé de le lâcher, de l'abandonner en pleine tempête. Il l'a fait savoir dans un communiqué lapidaire. C'est un choc évidemment pour les supporters et pour la ville aujourd'hui. L'actionnaire qui quitte le navire alors que le club lutte actuellement pour le maintien. À cinq journées de la fin du championnat, comment qualifiez-vous cette attitude, Pierre Urmic?
Je dirais que ça manque pour le moins d'élégance. Et ça prouve bien que le racheteur du club, King Street en l'occurrence, n'était pas du tout intéressé par l'aspect sportif de l'aventure, mais uniquement l'aspect financier de l'investissement. Même si, bon, c'était prévisible qu'il ne resterait pas longtemps. On fait partie de ceux qui, dès le départ, pensaient que c'était un coût financier, que si le coût financier ne rapportait pas à l'investisseur ce qu'il escomptait, il n'hésiterait pas à se désengager à la première occasion, ce qu'il a fait avec aussi peu d'élégance hier.
Oui, vous dites que vous n'avez pas été surpris en apprenant la nouvelle. C'est votre prédécesseur Alain Juppé qui était maire de Bordeaux au moment où King Street avait racheté le club à M6. Vous aviez voté contre, effectivement, à l'époque.
Oui, nous avions eu un débat à l'époque très intéressant et effectivement, mon prédécesseur considérait que ce rachat était dans le sens de l'histoire. Et moi, je m'étais insurgé contre cette vision du sens de l'histoire en disant qu'il n'y avait aucune fatalité et que c'était à nous, politiques, de temps en temps aussi, à chercher à influencer le sens de l'histoire et le fait que des clubs de football soient rachetés par des fonds de pension, c'est-à-dire des investisseurs purs, ne me paraissait pas être un gage de stabilité économique et sportive pour nos équipes de football. Et je pense que ce qui s'est passé depuis deux ans l'a largement prouvé.
Quand vous dites, Pierre Urmic, que la mairie ne sera pas une chambre d'enregistrement comme par le passé, mais un partenaire tout à fait actif, vous visez qui exactement ?
Oui, je vise l'évolution. Je pense que les malheurs de notre club du Girondin, parce que c'est vraiment un malheur d'être lâché par son propriétaire à quelques jours de la fin du championnat, ça peut être aussi une bonne opportunité pour que tous ensemble, les partenaires du club, les supporters, enfin tous ceux qui sont très attachés à l'esprit girondin ici à Bordeaux et dans la région, se mettent autour d'une table pour que ensemble nous dessinions les contours de ce que nous voulons être, un nouveau modèle économique, sportif et de gouvernance de notre club. Je pense que on a vu la faillite que donnait le fait que on laissait faire, on laissait un club vendre. Et acheté par un fonds de pension totalement anonyme. Je pense qu'il faut éviter ça.
Mais qui est responsable de cet échec, du coup ?
Je pense que les responsabilités sont multiples. Je pense que les politiques, manifestement, n'ont pas été visionnaires du tout.
Les politiques, c'est Alain Juppé ?
Oui, en l'occurrence, et puis une large majorité d'élus qui étaient derrière lui à l'époque pour faire confiance au fonds de pension américain. Je pense que l'ancien propriétaire du club M6 aussi, en vendant fort cher, il a vendu 100 millions d'euros, un club qui déjà à l'époque était criblé de dettes et ne valait certainement pas ce prix-là, ça n'est débarrassé à bon compte. Bon, il y a eu une espèce d'aveuglement en disant, ben voilà, le club va être racheté. Je pense que tout le monde a manqué un peu de vigilance à ce moment-là. Mais bon, on ne va pas faire le procès du passé. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à l'avenir, on peut se montrer beaucoup plus exigeant sur les qualités de celui qui sera le futur repreneur. Parce que bon, il y a des repreneurs potentiels. Il y a déjà des certain nombre de personnalités qui se sont manifestées pour dire qu'elles étaient très intéressées déjà depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, par la reprise du club.
Alors oui, justement, il paraît que vous êtes déjà en contact avec notamment deux repreneurs potentiels.
Oui,
lesquels ?
Depuis un moment. Oui, c'est pas un secret que ces gens-là sont intéressés par la reprise du club. C'est Bruno Fievé et
l'homme
Pascal Rigaud.
Oui. Oui, Bruno Fievé qui avait déjà fait savoir qu'il était intéressé.
Oui,
je crois qu'il avait déjà formulé une offre de rachat en septembre, qui avait été refusée.
Oui, mais le problème, c'est que actuellement, c'était difficilement achetable dans la mesure où King Street voulait récupérer sa mise de départ, c'est-à-dire qu'il avait mis à prix, il avait fixé le prix de vente du club à 100 millions d'euros, ce qui était d'ailleurs le prix qu'il avait payé à l'époque à M6. Et à ce prix-là, manifestement, c'était plutôt de nature à dissuader des investisseurs comme Bruno Fievé, Pascal Rigaud, mais également d'autres qui s'étaient manifestés.
Pascal là, Rigaud, qui est bordelais, je crois, qui pourrait s'associer
à... Oui, qui est d'origine bordelaise, absolument.
Qui pourrait s'associer à un milliardaire américain, j'ai entendu dire
ça. Lui-même a fait des affaires avec la plancherie. Lui-même a fait des affaires aux États-Unis. Voilà, c'est un partenaire qui a l'air tout à fait sérieux, qui est du coin, comme vous le rappelez, qui a aussi une vision de ce que doit être un club de foot. Un club de foot n'est pas qu'un pur produit d'investissement. Voilà, je pense qu'il y a des personnalités qui sont intéressées avec une nouvelle vision d'un nouveau modèle économique, d'une nouvelle gouvernance du club. Je pense qu'il faut aussi tout faire pour associer davantage les supporters, qui ne sont pas que des consommateurs de foot. Beaucoup ont envie d'être intéressés aussi par la gouvernance du club, ne sont pas que des consommateurs passifs. Je pense qu'on peut tout faire pour tenter de les associer un peu à la gouvernance du club.
Mais ces deux personnalités dont vous venez de parler, Bruno Fievé et Pascal Rigaud, pourraient y aller seules ou il faudrait qu'elles s'associent parce qu'il va falloir reprendre les dettes du club ?
Oui, mais pas toutes. L'avantage de la situation, c'est que toutes ne vont pas être... Il va y avoir un apurement des dettes, heureusement. Donc c'est évident que le prix ne sera pas celui qu'il était hier, celui qui était attendu par King Street. Donc je pense que le prix s'avérera beaucoup plus intéressant. Et je pense que ces repreneurs sont quand même sérieusement intéressés et doivent avoir la surface financière pour faire face à ce que sera le futur prix d'acquisition de ce club.
Donc on n'a pas trop de raisons ce soir d'être inquiet pour la survie du club ?
Non, mais il faut être exigeant. Moi, c'est pour ça que j'ai tenu aussi à manifester aussi un peu vis-à-vis du tribunal de commerce. Je veux pas que ce club soit vendu au plus offrant. Vous trouverez toujours un fonds de pension ou un investisseur qui vous dira, écoutez, moi, je suis prêt à mettre des sommes considérables pour acheter ce club et sans doute pour m'en débarrasser dans l'année ou dans les deux années qui suivent. Moi, je souhaite vraiment qu'il y ait une solution durable et une co-construction d'un nouveau club avec un investisseur qui a vraiment envie de s'inscrire durablement. Le club des Girondins de Bordeaux date de 140 ans, donc il est vraiment inscrit dans notre patrimoine, pas seulement sportif, fait partie un peu de l'âme de la ville de Bordeaux, donc on est très nombreux à être très attachés à ce qu'il y ait un repreneur tout à fait sérieux et qui s'inscrive durablement dans le paysage.
– Ça fait des mois quand même, Pierre Urmic, qu'il y a une colère des supporters contre la direction du club. Pourquoi il n'y a pas eu plus tôt une prise de conscience ?
Je sais pas. Moi, en tant que maire, j'ai essayé j'ai organisé un comité de médiation, de conciliation entre le club et les supporters, que je co-présidais avec Alain Giresse, à qui j'avais demandé de participer aussi à cette aventure. On a eu trois réunions. Les premières un peu difficiles, mais on est arrivé au moins à faire en sorte que on puisse un peu se parler.
Il a des mots très durs. Il parle de personnes totalement incompétentes dans le domaine du foot qui ne sont venues là que pour faire du business.
Oui.
Mais il a raison.
En tout cas, oui, je ne veux pas, pas commenter ce qu'il dit, mais leur sévérité me paraît justifiée.
Il y a quand même quelque chose que moi j'ai un peu de mal à comprendre. Bordeaux, c'est une ville connue dans le monde entier, célèbre pour ses vins, bien sûr. Mais comment ça se fait que cette marque, elle n'attire pas davantage les investisseurs? Ils préfèrent investir dans les prestigieux crus que dans le foot?
Mais là, ils pensaient investir. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pas un club de foot qu'ils venaient acheter, mais c'était une marque. Moi, quand j'avais vu Monsieur Dagrosa, qui était le premier repreneur du club, qui représentait un fonds d'investissement qui s'appelait GACP, il ne parlait jamais de foot, il parlait que de Bordeaux. Il parlait de faire rayonner Bordeaux. Enfin, il était assez subjugué par le nom de Bordeaux. Donc, c'était ça qui l'intéressait. Mais bon, il n'a peut-être pas réalisé qu'à la clé, il y avait un club de foot avec un actif, un passif, une saison sportive à gérer. Il ne parlait pas de projet sportif. Le projet sportif était tout à fait secondaire. Donc je pense que le nom de Bordeaux continue à séduire. Mais bon, Bordeaux n'est pas qu'une marque, c'est aussi une ville, c'est aussi
un club et ses supporters. Oui. Un club et ses supporters finalement.
Oui, un club sportif, bien inquiet, un attachement important à l'image d'un club. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut sauver. Voilà, on est en mauvaise posture, mais moi j'ai assez bon espoir qu'en tenant tous le même discours, on peut arriver à faire en sorte qu'il y ait un repreneur sérieux, durable, et que le club des Girondins retrouve le panache qu'il a eu il y a quelques années.
On suivra ça, c'est promis. Merci beaucoup Pierre Urmic, en tout cas, maire de Bordeaux, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Europe 1.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité et les grandes voix du vendredi. 18h30, le rappel des titres avec vous, Christophe Lamar.
Le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête après l'attaque du commissariat de Rambouillet. Une policière de 49 ans a été égorgée par un Tunisien de 36 ans. L'homme aurait crié « Allahu Akbar » avant son geste. Il a été abattu par les policiers. Parmi les réactions, celle d'Emmanuel Macron sur Twitter, « Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien », écrit le président. Le ministre de l'Intérieur va par ailleurs renforcer la sécurité devant les commissariats et les gendarmeries. La crise sanitaire, le gouvernement va imposer dès demain une quarantaine stricte aux voyageurs en provenance d'Inde. Objectif, empêcher la propagation du variant indien du Covid. Et puis les applaudissements et le soulagement au centre de la NASA à Cap Canaveral en Floride. À 11h49, heure française, SpaceX a décollé vers la station spatiale internationale avec à son bord 4 astronautes, dont Thomas Pesquet. La mission doit durer 6 mois.
L'info revient avec vous, Christophe Lamar, à 19h avec un nouveau journal complet. Anissa Haddadi, bonne nouvelle, il va faire bon ce week-end, les températures vont même grimper encore. Hein.
Oui, dans l'après-midi, hein, demain nous aurons des températures dignes d'un début juin. Alors couvrez-vous quand même demain matin, parce qu'on aura toujours cette fameuse fraîcheur matinale qui concerne notamment les régions situées sur la moitié nord. Demain, 0 à 14 degrés, 0 pour Charleville-Mézières, 6 degrés à Paris et jusqu'à 14 degrés à Biarritz. Dans l'après-midi, sur la moitié nord, nous aurons 14 à 22 degrés, 14 à Boulogne-sur-Mer, 16 à Lille, 19 à Metz et 21 degrés à Paris. Dans le sud, là, nous aurons vraiment des températures estivales. 24 degrés à La Rochelle, 25 à Brest et Limoges, 26 du côté de Tarbes et 27 la maximale prévue pour Bordeaux. Dans le ciel, rien à signaler. Le soleil est présent pour tout le monde demain. Dans l'après-midi, un léger voile nuageux viendra recouvrir toute la France, mais rien de très inquiétant.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point complet.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
18h32, on ouvre le débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1, Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express, et Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci
bonsoir
à tous les trois de m'accompagner ce soir. Je voudrais qu'on dise un mot d'abord sur ce drame de Rambouillet dont on parlait à l'instant avec Christophe Lamar. C'est l'info de la journée. Cette policière tuée par un homme de nationalité tunisienne qui n'était pas connu des services de police et de renseignement. Il aurait crié à la Wakbar. La victime est une mère de famille de 49 ans. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se sont rendus sur place. La présidente de la région Île-de-France aussi. On a vu frapper un symbole de la France, dit Valérie Pécresse. Et Marine Le Pen, évidemment, a elle aussi immédiatement réagi.
Il ne vous a pas échappé qu'Emmanuel Macron, c'est le chaos. Que ça fait 4 ans que c'est le chaos. Que jamais la situation sécuritaire dans notre pays a été aussi grave. Que jamais les Français n'ont été autant encerclés par la délinquance et par la criminalité. Il faut arrêter le laxisme.
Voilà, ça fait quelques heures à peine que ce drame a eu lieu. Et déjà, Éric Scholl, il commence à être exploité politiquement.
Oui, d'autant plus que le thème de la sécurité était justement revenu depuis le début de la semaine au milieu de la scène politique. Alors, évidemment, les conditions de ce drame, dont on ignore à présent encore tous les aboutissants,
oui, bien sûr.
Il y a une forte suspicion pour un attentat terroriste. On sait que le parquet antiterroriste a été saisi. Si c'était le cas, ça veut quand même dire que cette guerre qu'on mène contre l'islamisme est encore loin d'être finie. Et vous savez, si c'est le cas, ça serait quand même la 30e attaque depuis 2012. J'ai calculé, depuis 2012, la France avait fait l'objet de 30 attaques islamistes. Donc vous voyez qu'on n'en a absolument pas fini. L'an dernier, en 2020, il y a eu 4 attentats en France. Cette année, ça serait le premier si c'était ce cas-là. Donc on voit qu'on a été très occupé et on continue à l'être par la crise sanitaire. Mais néanmoins, la lutte contre les terroristes reste évidemment une des priorités du pouvoir, quel qu'il soit.
Oui, d'ailleurs, Jean Castex dit « Notre détermination pour lutter contre le terrorisme est plus que jamais intacte ». Et vous le disiez, hein, Éric Scholl, ce drame, il intervient la semaine où Emmanuel Macron s'empare de la sécurité, reprend en main le régalien, Aurélie Herbemont.
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, on voit deux types de réactions à droite d'Emmanuel Macron depuis quelques heures. Il y a donc Marine Le Pen qui est tout de suite passée à l'offensive en prenant Emmanuel Macron, le contre-pied d'Emmanuel Macron sur la sécurité. Vous avez aussi des gens chez Les Républicains. C'est Guillaume Pelletier qui justement a fait un tweet il y a quelques minutes où il cible Emmanuel Macron en disant « La vie paisible, Emmanuel Macron », et en mettant en cause un inexcusable renoncement au courage à l'action. Vous avez des gens qui tout de suite profitent, entre guillemets, de cet événement absolument dramatique pour tout de suite refaire de la politique et cibler Emmanuel Macron, parce que la vie paisible, c'était ce qu'Emmanuel Macron disait dans son interview lundi au Figaro. Par contre, vous en avez qui sont beaucoup plus prudents et qui jouent l'unité nationale pour l'instant. C'est Valérie Pécresse, effectivement, vous le disiez, qui s'est rendue sur place, ou Xavier Bertrand, qui est candidat à la présidentielle et qui lui, pour l'instant, a fait un message de solidarité avec la police, de solidarité de la nation. On voit, voilà, dans les premières heures, il y a deux types de comportements.
Oui, en tout cas, beaucoup de réactions, effectivement, et ça va très vite. Est-ce que vous pensez, Franck de Dieu, que ça peut mettre, effectivement, Emmanuel Macron en difficulté,
en difficulté, parce qu'effectivement, vous avez, en gros, une très forte réactivité du monde politique, mais qui contraste avec un sentiment chez les citoyens d'une forme d'impuissance. Alors, par-delà la question du terrorisme, la question de la sécurité, impuissance, parce que à la fois un sentiment mêlé de colère et puis d'exténation. On voit qu'il y a une sorte de figure imposée qui finit par glisser sur l'opinion publique. On parle d'unité nationale, de visage de la République auquel on se prend. Nous ne céderons rien. Toute cette phraséologie, il y a une sorte de fatigue face à ça. Et l'idée qu'au fond... de la part des citoyens, qui contraste avec cette réactivité très forte des politiques, l'idée que finalement, est-ce que il y a encore quelque chose à faire ? Est-ce qu'ils ont les manettes en main pour, par-delà, je parle de l'interview d'Emmanuel Macron au Figaro, par-delà des embauches de policiers, des caméras, des ouvertures de prison. On se dit, mais au fond, ce sont des annonces, mais concrètement, dans ma vie quotidienne, je ne vois rien changer. Malgré, je dirais, cette réactivité forte. Et ça, effectivement, ça met, je dirais, Emmanuel Macron en difficulté, mais peut-être même l'ensemble du personnel politique en difficulté.
Oui, vous évoquiez la lassitude des Français face à cette crise sanitaire. Et alors là, de nouveau, on est confronté à quelque chose qui est certainement un acte terroriste. La lassitude des policiers aussi, qui sont déjà terriblement à cran. Éric Scholl, on les a beaucoup entendus. Emmanuel Macron promettait de remettre du bleu dans les rues.
Oui, on l'a vu évoluer dans son discours vis-à-vis des polices. On sait que parfois, il a été tenté. On l'a vu se ressaisir récemment, sans doute d'ailleurs, parce qu'il a d'abord regardé les sondages. Il voit à quel point la sécurité est importante pour les Français. Deuxièmement, on sait que les policiers ont un peu le blues. Ils ont été très critiqués. Et donc, notamment dans cette interview, et lors de son déplacement à Montpellier cette semaine, il a essayé de dire, voilà, j'essaie de m'engager. Néanmoins, cette attaque, elle vise une fois de plus un commissariat. Et tout à l'heure, lorsque j'évoquais ces 30 attaques depuis 2012, il y en a 18 d'entre elles qui visaient les forces de l'ordre et les policiers. On voit donc qu'ils sont, hélas, les premières cibles de ces attentats, si c'est un attentat.
Oui, alors Emmanuel Macron qui, justement, on le disait, cette semaine, reprenait en main le régalien. Aurélie Herbemont, ça met à mal toute sa stratégie, cette nouvelle attaque.
Forcément, ça remontre qu'il y a presque une certaine fatalité, parce que objectivement, vous pouvez prendre toutes les mesures que vous voulez. C'est quand même très, très difficile d'empêcher ce genre d'actes isolés. On n'est plus du tout sur l'époque du terrorisme de masse, entre guillemets, qu'on a pu connaître au moment du Bataclan. Là, ce sont des individus qui frappent tout seuls. Alors, à ce stade, d'après l'enquête, cet individu n'était pas du tout fiché, pas du tout identifié. Il y a un côté presque, comment est-ce qu'on peut arriver finalement à venir à bout de ces terroristes qu'on ne détecte pas forcément, parce que les services de renseignement font un gros travail quand même, il faut le dire. Il y a beaucoup d'attentats qui sont déjoués, mais le risque zéro est quand même très très compliqué. Et n'importe quelle politique qui viendrait aujourd'hui vous dire avec moi c'est terminé, je pense qu'il prendrait un risque énorme, parce que qui peut garantir que ce genre d'assassinat barbare ne se reproduirait pas, quelles que soient les mesures maximales qu'on puisse prendre. C'est quand même très 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 compliqué à gérer, et ça pour n'importe quel pouvoir en place.
Oui, en tout cas c'est vrai que 6 mois après l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant, c'est encore de nouveau un symbole qui est visé cette fois, Franck de Dieu. C'est ça aussi qui nous marque.
Oui, et par rapport symbole visé, avec un terrorisme low cost, effectivement. Et puis les Français commencent à bien comprendre que cette histoire, ces phénomènes très épars sont extrêmement difficiles pour la police, par-delà la question des moyens. Et d'un certain point de vue, est-ce que, Eric disait, Emmanuel Macron a pris la mesure du changement. Oui, probablement, par rapport dans l'opinion publique à l'idée de sécurité, mais on a l'impression qu'il a aussi, il joue un peu sur les deux tableaux, et de façon parfois un petit peu grossière, pardon de le dire, mais chez Brut, il parle de violence policière, et puis dans le Figaro, il s'adresse à d'autres personnes, à d'autres lecteurs, à une autre communauté, et donc il tient un discours très différent. Donc le « en même temps », si vous voulez, il peut se décliner à l'infini, mais il finit par s'user lui aussi. Et donc effectivement, je crois que, évidemment, s'en prendre à la police, là il y a une sorte d'unanimité sur le symbole. Après, on est vraiment dans un temps politique de figure imposée, d'exploitation, entre guillemets, de tout phénomène qui doit avoir des conséquences électorales.
Éric Scholl, vous êtes d'accord avec cette analyse de Franck De Dieu ? C'est ça le problème, le « en même temps » d'Emmanuel Macron ?
C'est-à-dire qu'on le sait qu'il a été longtemps hésitant sur les sujets régaliens. C'était une des principales critiques qui lui était faite, et en particulier sur l'aspect de la sécurité. Et c'est aussi pour ça, justement, qu'on l'a vu cette semaine essayer de repartir. On sait qu'en ce moment, on est en train de rentrer dans un temps de campagne, et encore plus peut-être cette semaine, parce qu'on voit tous les candidats se préparer. On sait que Xavier Bertrand s'est emparé de ce thème de la sécurité. Justement, pourquoi ? Parce qu'il sait que Emmanuel Macron, c'est peut-être son point faible. Et donc, évidemment, que Marine Le Pen va être sur ce thème-là, comme elle l'a toujours été. Donc Emmanuel Macron, qui lui aussi doit se préparer à l'échéance de 2022, avait commencé à essayer de reprendre ses marques sur ce terrain de la sécurité. Et puis, c'est dans ce contexte qu'arrive cette attaque, et on verra si c'est un attentat. En tout cas, au passage, si on regarde les Yvelines, on voit que c'est un département qui a été touché très durement. Hein. Ouais. On se rappelle de l'attaque de Magnanville, ce couple de policiers. On se souvient évidemment de Samuel Paty, oui. Quelques mois, c'était à Conflans-Sainte-Honorine, et puis aujourd'hui, cette attaque perpétrée à Rambouillet.
Vous vouliez rajouter quelque chose rapidement,
Franck De Dieu ? Effectivement, je suis d'accord, on rentre dans la campagne présidentielle avec tout événement qui va correspondre à des formes de séquences. Et ces séquences-là vont être conduites par à peu près tout le spectre politique. On est cette semaine, et ça a commencé un peu sur votre antenne, avec Xavier Bertrand qui était sur le sécuritaire. La veille, il était sur la droite libérale. Là, il est sur sa séquence sécuritaire. Emmanuel Macron aussi. Et on a l'impression que demain, quand il y aura un plan social, j'espère le plus tard possible, mais malheureusement, il risque d'y en avoir, eh bien, tous les candidats vont y aller de leur petit couplet sur la protection des Français, sur le plan social, les licenciements abusifs, les patrons voyous, etc. Ça, je pense que c'est peut-être ça qui est peut-être nouveau dans après ce « en même temps » de 2017. Ce qui est nouveau, c'est que peut-être que les Français ne mordront pas à l'hameçon de ces séquences sectorielles où il y a à chaque fois des figures imposées qui finissent par glisser un peu.
Bien, on va se retrouver dans un tout petit instant, les grandes voix. On va parler du déconfinement et de cette idée de territorialisation qui est de plus en plus poussée par certains élus. À tout de suite. 18h46, c'est la suite de votre débat des grandes voix du vendredi, avec toujours à mes côtés Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1, Franck De Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express. Alors, le déconfinement. Après les annonces hier de Jean Castex et les indices qui montrent que l'exécutif souhaiterait une approche territorialisée, il y a plusieurs élus locaux de territoires où le virus circule moins qui proposent d'anticiper les réouvertures. C'est le cas notamment du maire de Nice, Christian Estrosi.
On a été les premiers confinés. Je suis en train de proposer au ministre de la Santé un protocole sanitaire très strict. Et à partir de ce protocole, nous espérons pouvoir être parmi les premiers déconfinés et mettre en œuvre ces dispositions dans la première quinzaine du mois de mai, par exemple.
Voilà, Christian Estrosi, chez nos confrères de Public Sénat. Les élus des Alpes-Maritimes qui demandent un déconfinement anticipé au gouvernement, ils ont raison ou ils veulent aller plus vite que la musique ? Aurélie Herbemont.
Alors, ils veulent surtout aller très très vite puisqu'ils demandent suppression du couvre-feu, réouverture des salles de sport, de toutes les terrasses. Donc, c'est vraiment des confinements...
Des commerces de proximité.
Des commerces de proximité, bien sûr. C'est vraiment des confinements intégral que demandent les élus des Alpes-Maritimes. Alors bon, peut-être, après tout, c'est légitime. Ils ont été confinés en premier. Là, ils ont un taux d'incidence qui, je crois, va bientôt être en dessous des 200 pour 100 000 habitants. Donc, après tout, à partir du moment où vous ouvrez la possibilité à une logique territorialisée, c'est vrai qu'on se dit, les départements où ça va mieux, autant qu'ils puissent se retrouver une vie un peu plus normale. Mais peut-être qu'il ne faut pas aller trop vite non plus et trop demander. En tout cas, je peux vous dire que suppression du couvre-feu au gouvernement, ce n'est pas trop l'idée. Ça sera vraiment une des dernières choses qui sera levée. Elle sera peut-être... Le couvre-feu reculé, sera peut-être reculé, mais de là à demander la suppression du couvre-feu, c'est vraiment quasiment ce qui arrivera en dernier. Mais c'est légitime, si ça va mieux, de demander à pouvoir ouvrir. Après, toute la difficulté, c'est si vous ouvrez, par exemple, toutes les terrasses avant... dans les Alpes-Maritimes. Peut-être qu'il y a des gens des départements voisins qui voudront aller boire un verre en terrasse. Donc ça peut être un petit peu compliqué si on ouvre les vannes trop tôt à tous les niveaux dans un territoire.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Alpes-Maritimes ont une campagne de vaccination qui est très avancée, que le virus circule moins. Est-ce qu'ils demandent beaucoup pour obtenir un peu, d'après vous, Eric Scholl ?
J'ai trouvé que c'était plutôt assez malin parce que c'est vrai qu'ils demandent beaucoup, mais ils ont eux-mêmes expliqué que ça devait être progressif. Ils ont fait une sorte de plan d'étape. C'est vrai que la deuxième étape, c'est tout de suite la levée du couvre-feu. Mais bon, ils ont quand même réfléchi à leur affaire et ils ont pris surtout au mot le Premier ministre quand il a parlé de conditions territorialisées. Et ben voilà, on a effectivement, que ça soit sur le plan de la situation sanitaire dans le département, que ça soit sur le plan effectivement de l'accélération de la vaccination dans le département, des conditions qui font qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a des choses qu'on peut aller plus vite dans ce département, beaucoup plus vite que dans d'autres départements en France, c'est évident. Donc ça me semble assez logique. Non, ils tentent leur chance auprès du gouvernement et
qui devrait
normalement les écouter.
Effectivement, c'est la logique de territorialisation. Il n'y a pas que les Alpes-Maritimes d'ailleurs, en Bretagne, il y a aussi les Bretons, ils aimeraient bien être le laboratoire des expérimentations de déconfinement. Est-ce que ça ne serait pas faire preuve de bon sens d'autoriser les départements où le virus circule peu à rouvrir, effectivement, Franck de Dieu ?
Il y a, alors si, là, vous avez décrit en gros la jurisprudence 06, quoi. Et si on ouvre la boîte de Pandore, alors là, effectivement, on va faire chaque département va faire ses petits calculs. Et effectivement, l'avantage, enfin, là où ils sont très très habiles, le personnel politique des Alpes-Maritimes, c'est qu'en fait, ils appliquent totalement la doctrine gouvernementale. Premièrement, ça signe quand même une sorte d'équilibre entre l'économique et le sanitaire. Ils font des relevés de taux d'incidence en disant « je vous prends au mot ». Nous, on va être en dessous, ou on est déjà en dessous du seuil d'alerte. Et enfin, il y a une sorte d'autonomisation des territoires, en disant, regardez, vous voulez... On peut même ajouter qu'il y a une forme d'union départementale, puisqu'on touche à la commune, l'agglomération, et puis aussi le département. Donc, effectivement, c'est très difficile, dans la mesure où ils cochent toutes les cases de la doctrine gouvernementale, de leur dire, pour vous, ça va être difficile. C'est assez malin. Maintenant, on est dans un État jacobin, attaché à l'égalité de traitement, par-delà les différences sanitaires. Et cette égalité de traitement-là, eh bien, c'est aussi pour ça, un peu, pardon de le dire, mais que les Français ont tenu et ne se sont pas invectivés les uns les autres. C'est quand même important, l'égalité de traitement sur tout l'ensemble du territoire.
Oui, c'est vrai, mais l'isolement, il est plus fort dans les territoires ruraux. On peut vous rétorquer que le café du village, c'est un vecteur de lien social. Ça fait six mois qu'il est fermé, Eric Scholl. Oui. Et s'il n'y a pas de cas dans la commune, bah, on peut comprendre aussi qu'ils ont envie de rouvrir.
Mais oui, mais ça va être la même chose dans d'autres départements.
Bien sûr, non, mais c'est un casse-tête.
Où l'épidémie est plus importante. Parce qu'on, quand on regarde un petit peu à l'étranger, effectivement, comme il y a moins... on retrouve moins notre modèle jacobin centralisateur. On a vu, par exemple, en Espagne, des politiques qui dépendaient selon des régions.
Et donc, en Allemagne aussi, oui.
Et donc, il y a des endroits où les restaurants sont ouverts, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Je pense que... Mais par contre, cette idée d'égalitarisme ou d'égalité qui existe en France, effectivement, elle a permis... Pendant le premier confinement, il y a un an, que tout le monde tienne, ça a été beaucoup plus compliqué à partir du moment où on avait commencé à mettre des conditions de territorialisation, parce que tout d'un coup, chacun s'est dit « mais pourquoi ça se passe comme ça là-bas et pourquoi ça se passe comme ça chez moi ?» Et donc, c'est, je pense, une idée logique qui est une bonne idée pour progresser dans le déconfinement, mais qui est plus difficilement acceptable, en particulier pour ceux qui seront les derniers déconfinés.
Ouais, et Franck de Dieu l'évoquait entre les lignes, est-ce que ça ne serait pas aussi un coup de communication politique à l'approche des élections régionales et départementales, Aurélie Herbemont ? Nous, on a réussi, vous avez vu, on a déconfiné plus vite.
Après, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que les Alpes-Maritimes ont été très durement touchées, avaient donc dû être confinées le week-end à partir de début mars. Donc, ils avaient... ils ont aussi, du coup, vous parliez tout à l'heure d'une campagne de vaccination qui va plus vite qu'ailleurs, oui. Parce que du coup, on a fait envoyer des doses, parce que la situation était vraiment critique dans les Alpes-Maritimes. Après, évidemment, c'est vrai que c'est plus facile de vous afficher comme ceux qui auront réussi à déconfiner plus tôt, faisant oublier que c'était vous qui aviez demandé il y a quelques semaines à confiner plus tôt. D'ailleurs, quand Christian Estrosi l'avait demandé, tous les élus du département étaient loin d'être d'accord. Là, pour une fois, il y a une unanimité. Mais si aujourd'hui la situation va mieux, c'est peut-être, c'est sans doute d'ailleurs, oui. Et heureusement que ça marche comme ça d'ailleurs, c'est parce qu'il y a eu des mesures plus drastiques plus tôt dans les Alpes-Maritimes.
Et davantage de vaccination.
Et quand vous rouvrez, c'est sûr que tout de suite, c'est beaucoup plus populaire que quand vous demandez la fermeture, même si c'est pour la bonne cause.
Éric Scholl ?
Et d'une certaine façon, c'est aussi quand même justement une bonne nouvelle, parce qu'on voit que après ces trois week-ends de confinement et ensuite après cette période de semi-confinement qu'on vient de vivre, et bien maintenant les résultats, ils ont atteint des résultats qui sont très encourageants et bien supérieurs en efficacité, donc inférieurs en taux d'incidence, etc., à la moyenne nationale.
Ouais. Alors c'est vrai que cette sortie de crise, en tout cas, on l'a commencé à l'évoquer, elle est clairement liée à la vaccination. Jean Castex a annoncé que les délais de 20 millions de vaccinés à la mi-mai seraient tenus, 30 à la mi-juin. Le problème, c'est toujours le même, c'est ce sérum AstraZeneca qui est toujours aussi impopulaire auprès des Français, malgré tous les efforts du gouvernement qui insiste sur la sûreté de ce vaccin. C'était le cas encore hier à la conférence de presse. Jean Castex, Olivier Véran également et même Jean-Michel Blanquer.
Les professeurs de plus de 55 ans font l'objet de centres de vaccination dédiés. Et donc ce système continue, il continuera le week-end prochain. Moi-même, puisque j'ai 56 ans, j'irai me faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca, de façon à ce que nous puissions bien montrer que ce vaccin est sûr et qu'il fait partie de la stratégie de vaccination.
Franchement, le gouvernement, il fait tout ce qu'il peut. Hein. Olivier Véran aussi, qui multiplie les sorties. Il a déclaré dernièrement, si vous prenez l'avion pour traverser l'Atlantique, le risque de thrombose est 50 fois plus élevé que si vous prenez le vaccin AstraZeneca. Pourtant, ça ne suffit pas. Il n'y a rien à faire, hein, Franck de Dieu.
Oui, et c'est vrai que les démonstrations de mathématiques sur les ratios de risque devraient influencer ou du moins convaincre. Mais je crois qu'il y a quand même, il faut bien l'avouer, un péché originel dont on ne parle pas. C'était un article de Politico qui, le 29 janvier, cite Emmanuel Macron qui dit « Avant l'avis de l'Agence européenne du médicament, aujourd'hui, on pense que le vaccin est quasi inefficace. » Donc, effectivement, quand vous avez, vous rappelez cela juste après, vous faites une campagne pour dire « Allez vous faire vacciner les yeux fermés pour AstraZeneca », effectivement, il faut bien avouer que c'est quand même plus facile de commenter des citations sur Europe 1 que d'être aux manettes. Effectivement, a posteriori, c'est quand même plus facile, avouons-le. Mais il y a une sorte de, quelque part, de malédiction du contretemps chez ce gouvernement, où sur les masques, on vous dit tout et son contraire, sur les vaccinodromes également, changement de pied, et là, sur AstraZeneca également. Voilà. Donc moi, je pense que cette question-là, je dirais, si je devais un petit peu... au fond, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une sorte, quand je parlais de malédiction, Emmanuel Macron a eu énormément de chance dans la conquête du pouvoir, et dans l'exercice, il n'a pas de bol.
C'est le moins qu'on puisse dire là en ce moment. On entend dire, Éric Scholl, que des célébrités auraient été sollicitées, qu'elles pourraient se mettre en scène en train de se faire vacciner avec AstraZeneca. C'est ça la solution ? D'abord, est-ce que vous avez des noms, tiens ? Est-ce que vous savez ?
Comment ?
Est-ce que vous avez des noms ? Est-ce que vous savez qui a été sollicité ?
Non, mais vous savez, c'est le principe aux États-Unis. Pendant la campagne, au début de la campagne de vaccination, ça a très bien fonctionné. C'est-à-dire qu'on avait, on utilisait les grandes figures politiques. On avait vu Biden et qui se sont tous fait vacciner. Et en France, on n'a pas fait ça pour le monde politique au début parce que on considérait qu'il fallait qu'on soit justement. Il y avait cette idée d'égalité. Il fallait pas que les politiques passent avant. Aujourd'hui, on a changé.
Olivier Véran, il y a mis du sien pourtant. Il nous a montré ses muscles. Hein.
C'est vrai. Mais lui, il pouvait se faire vacciner justement parce qu'il était soignant. Il avait bien pris soin de l'indiquer. Il ne fallait pas qu'il y ait de passe-droit pour les politiques. Et le côté exemplarité du premier vacciné n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on est en train de essaye de sauver ce vaccin qui, effectivement, est moins utilisé parce que les gens n'en veulent pas, alors qu'il fonctionne très bien. Il est très efficace. Mais on voit le taux d'utilisation, il est sous-utilisé par rapport à notamment à Pfizer. Il y a eu des changements dans la politique française, on le sait. Il y a pas eu que la France, hein, il y a eu l'Allemagne. C'est l'Allemagne a eu une responsabilité là-dedans lorsque, au mois de mars, elle a suspendu. Et c'est ensuite, d'ailleurs, que la France a suspendu l'AstraZeneca avant que, quelques jours plus tard, les autorités européennes considèrent que non, il était tout à fait fiable, etc. Ça fait une sorte de mauvaise séquence et le doute s'est installé et le doute a perduré. Vous vous rappelez la première application anti-Covid ? On a oublié son nom. Parce que depuis, on a changé son nom T-Covid. Bah, peut-être qu'il faudrait faire la même chose avec l'AstraZeneca.
On aura le temps d'en reparler, j'en suis sûre, avec vous. Merci beaucoup, les grandes voix du vendredi. Merci de m'avoir accompagné ce soir.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, toute l'info avec le journal de 19h de Christophe Lamarre.